Bonjour et bienvenue dans La Boîte à Clés, le podcast qui a pour ambition de vous aider à révéler votre potentiel et à vous faire passer à l'action. Je suis Catherine Baudin, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis coach en développement personnel et professionnel et mon objectif est d'aborder ici des sujets très variés afin que chacun y trouve ce dont il a besoin. Pour cela, je donne la parole à des personnes qui ont des histoires de vie inspirantes à nous raconter et qui nous expliquent en première partie d'épisode leur parcours, leur état d'esprit, leur réussite et leurs enseignements. Et enfin, dans une deuxième partie, je partage avec vous des outils et astuces pratiques en lien avec le thème de l'interview pour que vous puissiez mettre en application les choses dont vous avez besoin dans vos propres vies. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de vous abonner sur votre plateforme préférée, de le partager autour de vous et de lui mettre une note 5 étoiles ou un avis. Et vous pouvez également me faire vos commentaires et vos feedbacks. Pour l'épisode du jour, nous allons aborder différents sujets. L'éducation, la parentalité, les émotions, la communication, les relations humaines, les 4 accords Toltec et même un exemple de reconversion professionnelle. Pour cela, je suis allée à la rencontre de Céline Siritelis pour qu'elle nous parle de son métier, qu'elle nous raconte son parcours et surtout qu'elle nous partage ses précieux conseils de coach parental. Je vous laisse donc en compagnie de Céline Siritelis et vous retrouve en solo juste après cette interview. Bonjour Céline.
Bonjour Catherine.
Merci d'avoir accepté mon invitation à venir sur le podcast. Je suis ravie de t'accueillir.
Merci.
Est-ce que tu peux, s'il te plaît, commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie?
Alors, je suis Céline Siritelis, j'ai 38 ans. Mm-hmm. J'ai plusieurs casquettes, ça tourne beaucoup autour de la parentalité.
D'accord.
J'ai aujourd'hui 3 enfants. Et puis, mon métier au quotidien, c'est d'accompagner les parents qui en ont marre de crier sur leurs enfants.
D'accord.
Et voilà, je les aide à retrouver un quotidien plus serein. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'animait depuis très longtemps.
Mm-hmm. En fait. D'accord. Donc, cette activité-là, elle existe depuis combien de temps?
Depuis 2016.
Donc, tu as créé ta société qui s'appelle PESI, c'est
PESI,
ça?
PESI, oui.
Qui est installée à Reims.
Oui.
OK.
Que j'ai créé d'abord quand j'étais à Paris, mais qui a déménagé avec moi à Reims, oui.
Alors, ça tombe bien parce qu'on est en pleine période de rentrée scolaire. Donc, du coup, le sujet s'y prête bien, je trouve. Sur quel type de sujet, toi, en règle générale, tu accompagnes les parents? Quelles sont les principales problématiques que rencontrent les parents, en tout cas de toi, ce que tu vois?
Que j'entends le plus souvent, c'est ce qu'on appelle les crises. Mm-hmm. Mon enfant fait des crises. À l'écrit, j'aime bien utiliser les guillemets parce que du coup, il y a un enjeu à souvent redéfinir ce qu'on appelle une crise. Mm-hmm. Mais les parents frappent à ma porte en disant... Il enchaîne crise sur crise et je me sens démunie, je ne sais plus comment gérer.
Je sais pas quoi faire devant cette crise-là.
Voilà, donc concrètement, c'est des réactions intenses qui paraissent souvent disproportionnées aux parents.
Par rapport à la situation qui a déclenché la
crise. En tout cas, eux, de leur point de vue,
ils
voient pas qu'est-ce qui peut déclencher ce genre de crise. Qui paraissent aussi arbitraires, c'est-à-dire que pour eux, il n'y a aucune raison à ce moment-là de réagir de cette façon. Mmh. Et en tout cas, face à laquelle, vraiment, ils ont ce sentiment de ne plus savoir comment réagir. Ils n'arrivent plus à les éviter. Et quand elles se produisent, ils ne savent plus du tout comment les accompagner sans eux-mêmes se mettre aussi à crier. Quoi.
Bien sûr.
Donc ça, c'est un cas de figure qui est très
d'ailleurs,
fréquent.
C'est assez marrant, d'ailleurs, quand on voit un parent, par exemple, qui devant un enfant qui crie et qui lui dit « Mais arrête de crier en criant, finalement, c'est...
Ouais. » Tu te calmes en criant, arrête de crier, oui c'est ça. En fait, tout d'un coup, on a deux individus qui, en parallèle, vivent la même explosion, en fait.
Oui, bien sûr. Ah, ok.
Donc, j'ai souvent ce genre de choses.
Et alors, dans ce genre de situation, comment tu accompagnes les parents, alors?
En fait, c'est vraiment, et c'est quelque chose que je fais de façon, qu'on va retrouver dans plein de cas de figure. Mais typiquement pour ces crises, avec des guillemets, ou ces caprices, ou cette notion d'un enfant insupportable, c'est de décrypter ce qui se passe, ce qui se cache derrière le comportement de l'enfant, d'aider le parent à voir un peu ce qui peut se jouer dans la relation, et une fois qu'ils ont compris ça, paf, en fait, on trouve très vite et très facilement une ou plusieurs solutions qui vont être adaptées, spécifiques, personnalisées et toujours très concrètes.
Et qui finalement vont répondre aux besoins de l'enfant à ce moment-là, en tout cas dans sa réalité à lui.
Oui.
Est-ce que tu aurais un exemple précis à nous donner
Un exemple de crise, d'un enfant qui retrouve sa maman après l'école, qui se jette par terre. Qui se jette par terre. Sa maman très contente d'arriver à 4h30.
De retrouver son enfant.
Retrouver son enfant.
Après la journée de travail.
Voilà, de se dire que 4h30, c'est quand même pas tous les jours qu'elle peut le faire. Et l'enfant se jette par terre en réclamant son goûter. Et la mère voilà, trouve que c'est... attends, on se dit bonjour d'abord. Dis-moi bonjour, je te donnerai ton goûter. Et elle analyse ces crises en disant, à chaque fois que je le retrouve, c'est la crise. Et typiquement, là, ce qu'on peut décrypter, c'est l'état de fatigue physique de l'enfant. Mm-hmm. Son niveau aussi, le niveau de ses curseurs sur des besoins primaires comme la faim, mm-hmm. la soif. Son état de fatigue émotionnelle aussi, d'avoir pris sur soi, de s'être beaucoup plus contrôlée
tout au long de la journée
et d'enfin retrouver hein, voilà, cette figure d'attachement qui va, auprès de laquelle il va s'autoriser à déverser ce qu'il n'a pas fait face à d'autres adultes ou à d'autres enfants. Et donc là, on a vraiment cet aspect de décryptage. Et par exemple, c'est ce genre de situation où en tant que parent, on passe de « il est ingrat, il m'en veut, il se moque de moi ». Il ne reconnaît pas mes efforts.
Mm-hmm. Et ce n'est pas l'éducation que je veux lui donner parce qu'il devrait dire bonjour et être
poli.
Oui,
il est mal poli. Alors que pour moi, c'est hyper important qu'on se dise d'abord bonjour. Et donc, on passe de ce décryptage à « Ah d'accord, en fait, il a juste besoin que peut-être je dise « Tu as très faim », que je vienne tout de suite avec le goûter. Mm-hmm. » Parfois, il y a ce genre de situation, c'est des mamans qui disent « Ok, d'accord, donc j'arrive avec le goûter, je nourris les besoins primaires.
Primaire. »
Et puis, dès qu'il a pu avaler sa première bouchée de biscuit ou bu sa gorgée, hop, on dit « Attends, là
ça
va mieux. »
Et maintenant,
on se dit « Bonjour maintenant. » Et tu vois, et toutes ces choses-là, en fait... elle change dès que les parents, il a un éclairage, en fait.
Et est-ce qu'il n'y a pas une crainte, à un moment donné, de se dire, oui, mais dans ce cas-là, finalement, effectivement, les valeurs de respect, d'éducation, etc., se dire bonjour, c'est important. Est-ce que si je fais ça, si j'arrive avec le goûter avant que l'enfant me dise bonjour, je ne suis pas en train de répondre à un caprice et que je ne suis pas en train de remettre en cause, tu vois. Enfin, là, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que je ne suis pas en train de remettre en cause toute l'éducation que j'essaye de lui donner et de construire parce qu'il a faim, alors que potentiellement, il peut attendre 2 minutes, me dire bonjour et avoir son gâteau juste après.
Oui, c'est hyper intéressant ta question. D'abord, là, j'ai pris un exemple d'un enfant de maternelle. Mm-hmm. De fait, on ne va pas attendre la même chose d'un enfant de maternelle, d'un enfant de 12 ans.
Bien sûr.
Si tu le vois se jeter par terre à la sortie du collège, elle va un peu plus t'interpeller qu'à la maternelle. Et de fait, ces scènes-là, elles ne se produisent pas au collège, mais plutôt dans les âges maternels, donc avant 6 ans. Ce qui est lié aussi à une question de... On sait aujourd'hui, avec l'éclairage des neurosciences, l'impact de la maturation du cerveau, etc.
D'accord.
Donc, en tant que parent, on peut avoir... Et ça joue aussi sur notre façon d'accepter ce genre de crise, avec des guillemets, de situation. C'est-à-dire qu'on se dit, bah attends, s'il ne me dit pas bonjour, tout est fichu, quoi. En fait, il va commencer à se moquer de moi, plus me respecter. Et c'est bien de dire, c'est pas ça dont il est question à ce moment-là. Et chaque situation, pour moi... Quand un parent vient me voir en me disant il y a telle ou telle difficulté, je ne lui dis pas on va arrêter cette difficulté. Je lui dis ce qu'on va faire, c'est faire en sorte qu'à chaque fois qu'elle se reproduit à l'avenir, elle soit systématiquement une occasion d'apprentissage.
D'accord.
Et donc, de 3 à 6 ans, quand ce genre de choses se produisent, à chaque fois on dit, ben voilà, on peut verbaliser après, parce qu'il y a comment gérer pour calmer le jeu, et puis comment faire aussi le rôle d'éducation. Donc, on peut après dire... Est-ce que tu t'es rendu compte qu'une fois que tu avais mangé, hein, on a pu discuter ? Oui. Ok. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fait attention à... Tu me dis si tu as faim, mais moi, je veux que le plus rapidement possible, on puisse se dire bonjour, parce que pour moi, c'est hyper important.
Ok. Ouais. Ce qui finalement remettrait en cause toute l'éducation, c'est de laisser tomber et puis pas réaborder le sujet ouvertement avec l'enfant, finalement.
Mais moi, je me dis... tu dois l'utiliser toi aussi, tu sais, des questions, des images d'échelle d'objectifs.
Oui.
Quel est ton objectif ultime ? J'ai envie de retrouver mon enfant sereinement. Ok, donc tu vas retrouver cette sérénité et puis hop, dès que tu l'as, tu vas pouvoir travailler sur tes objectifs d'éducation.
Bien sûr.
Dire bonjour, instaurer des réflexes, etc. Mais de fait, quand il n'y a pas la sérénité, il n'y a pas le bonjour non plus. Ou alors, à quel prix ? Donc finalement, c'est plus ça la démarche.
Ouais, bien sûr. Et puis en plus, dans cette démarche-là, du coup, tu apprends aussi à l'enfant que c'est important aussi de respecter ses besoins, de s'écouter, et qu'effectivement, s'il a faim en ce moment-là, il écoute ses besoins, c'est important d'y répondre. Effectivement, à cet âge-là, c'est la faim. À un autre âge, ça va être un autre besoin, mais parce que là, on parle d'enfant maternel, donc c'est la faim. Et d'ailleurs, c'est un sujet, alors moi je travaille plus avec des adultes, mais qu'on réapprend aussi aujourd'hui en tant qu'adulte, parce que finalement, on ne nous l'a pas suffisamment appris étant jeune. Mmh. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent plus ou qui ne savent pas du tout, voire même s'écouter. Et du coup, ça peut engendrer des choses très, très compliquées à gérer.
Décrypter ses émotions, c'est très dur. C'est ce qu'on impose un peu aux parents d'aujourd'hui vis-à-vis de leurs enfants, sans qu'on ait notre génération, pour nous-mêmes, la majeure partie d'entre nous, les outils.
Appris.
Et donc, accompagner un enfant dans une colère, savoir dire...
On doit déjà comprendre les nôtres, d'ailleurs.
Ouais, ce qui n'est pas facile.
Ce qui n'est pas facile.
Bon, du coup, on peut avoir, entre guillemets, le travers de se dire je ne sais pas faire, mais donc il faut que je l'apprenne à mon enfant. Sauf que ça va être un peu plus compliqué.
Un peu plus compliqué.
Mais du coup, face à une colère, être capable de dire tu es en colère, est-ce que tu sens que ça se passe dans tes mâchoires, est-ce que tu sens que tes bras ils se rapprochent de toi et ils ont envie de tout jeter, et bien ça c'est lié à tout ce que t'as pas, par exemple tu as eu la frustration tout à l'heure et du coup elle te met en colère, mais ça peut être aussi tu as eu peur, il y a des enfants qui se mettent en, et des adultes, c'est le cas des accidents de voiture, d'abord j'ai eu peur et je sors en vie de ma voiture, la première chose que je fais c'est que je me mets à crier sur l'autre conducteur, et donc savoir décrypter ces dynamiques émotionnelles, c'est aussi dur pour, enfin c'est d'autant plus dur pour son enfant qu'on n'est pas forcément capable de le faire pour soi-même.
Bien sûr, surtout que lui il n'a pas la capacité, son cerveau n'est pas suffisamment développé pour le conscientiser comme nous on peut le faire aujourd'hui.
Et si tu me permets, ça me ramène à l'autre côté de ta question. Est-ce que dire à son enfant « Ok, je comprends ta faim » et accepter de différer le bonjour, ce n'est pas un risque de passer à côté de choses qui sont essentielles pour nous? Je pense aussi que ça renvoie à des craintes sur cette façon d'être à l'écoute de l'enfant, de se dire « Mais si je suis à l'écoute, ça veut dire que je devais dire tout le temps oui, mais alors j'ai peur qu'il ne respecte aucune règle, qu'il accepte aucune des règles que les autres lui imposent. » Et il y a souvent des peurs que l'écoute de l'enfant nous fasse à nous, enfin que lui prenne le pouvoir ou que nous on perde le pouvoir. Et ça aussi, c'est très, je pense, lié à notre époque. C'est-à-dire qu'avant, on ne se posait pas de questions. L'autorité, c'était l'adulte. Celui qu'on écoutait, c'était l'adulte. Et l'enfant s'y pliait, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on a quand même un peu, je pense qu'on est encore une génération de transition, il y a un peu cet équilibre à trouver de, ok, l'adulte n'est pas tout puissant face à un enfant qui doit se conformer à nos attentes. Oui, mais alors jusqu'à quel point?
C'est-à-dire que, et comme dans beaucoup de choses, hein, c'est soit noir, soit blanc.
Oui.
C'est, hein, on est très cartésien et c'est soit c'est le parent qui a l'autorité, soit si à un moment donné on écoute trop l'enfant, du coup on est dans l'excès inverse et c'est l'enfant. Mais sauf que le gris ça existe en fait.
Oui.
Et c'est une question d'équilibre en fait.
Oui, et cet équilibre c'est une des choses qui rend, je trouve, particulièrement ardu le job de parent aujourd'hui. Parce que, et c'est pour ça que nos échanges sur les émotions m'y ramenaient, c'est que toute cette partie d'être à l'écoute des émotions, toute cette partie de tenir compte de l'enfant, de le considérer comme une personne, alors ça, c'était Dolto déjà qui avait introduit ça, mais aujourd'hui on a encore un autre regard là-dessus, et on se dit en tant que parent, mon job c'est plus d'avoir un enfant obéissant, un enfant sage, mon job c'est d'avoir un enfant épanoui. Quel challenge. Et donc voilà, en passant par toutes ces difficultés sur le décryptage des émotions, tu vas dans une librairie, le nombre de livres qui te permettent d'accompagner ton enfant dans ses émotions par des parents qui n'ont pas les clés toujours. C'est hyper complexe en fait. C'est hyper complexe.
Est-ce que tu penses que pour réussir à avoir un enfant épanoui, il faut déjà être un adulte épanoui? Ou est-ce que ça peut être l'inverse? Est-ce que en tant que parent, on est épanoui à partir du moment où nos enfants sont épanouis? Il y a peut-être un peu des deux, en fait.
Oui, en fait, je crois que je ne sais pas répondre à cette question.
C'est une question d'équilibre aussi.
De mon point de vue, voilà, mes enfants sont encore jeunes. De ce que je vois autour de moi, il y a toujours un moment, quel que soit... Chaque parent fait un espèce de pari pascalien. je fais le pari que mes choix d'éducation seront bénéfiques, sauf que la réponse, on l'a vers 20-25 ans. Je pense qu'il y a un équilibre là aussi à trouver. Et, alors, tu parles d'épanouissement, mais je trouve que ça se voit beaucoup sur cette question de bienveillance. On parle d'éducation bienveillante, et typiquement, ça ne fonctionne pas comme dans les livres, quand on ne sait pas l'être envers soi-même. Et moi, je fais souvent faire un grand travail sur les parents, sur leur place à eux, leurs besoins à eux, et la bienveillance envers eux-mêmes. Mm-hmm. Je ne parle pas de complaisance, hein, mais je parle de bien savoir sûr. Aussi accepter nos façons d'être, de là où on vient, qu'est-ce qu'on est capable de changer. Et peut-être que, oui, ma réponse serait plutôt que vouloir l'épanouissement de quelqu'un sans l'être, c'est un peu difficile. On rentre souvent dans des difficultés qui sont liées à une envie de réparation.
Sauf que les enfants ne sont pas là pour réparer.
Les enfants ne sont pas là pour réparer. Et peut-être qu'un parent qui serait vraiment très bien dans sa peau et très épanoui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière être épanoui, mais n'aurait pas l'attente, l'objectif que son enfant le soit.
Oui, bien sûr.
Tu vois, peut-être que ça se situe encore à un autre niveau.
Bien sûr, oui, tout à fait. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur ou ce que je disais aussi par rapport à l'enfant qui veut son goûter tout de suite en sortant de l'école, et le parent qui ne sait pas gérer ou qui a peut-être peur de se laisser embarquer par son enfant s'il répond tout de suite à ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi une problématique du regard des autres aussi?
Ah oui,
Le jugement et le regard que vont avoir les autres parents.
Ça joue énormément, on parle de cette situation-là, mais je suis sûre que tout le monde a vu au moins une fois dans sa vie quelqu'un, ou soit vécu, soit vu quelqu'un dans un supermarché.
J'allais te dire l'exemple de l'enfant.
Et la crise dans le bus ou dans le supermarché, c'est vraiment une crise qui est d'autant plus difficile qu'elle se passe sous le regard des autres. Et je questionne souvent les parents sur est-ce que vous criez plus quand vous êtes dans un lieu public ou quand vous êtes seul avec vos enfants. Et souvent aussi, ça nous éclaire sur qu'est-ce qui peut peser, qu'est-ce qui peut être un peu le saboteur de notre capacité à accompagner notre enfant. Mmh. Et beaucoup partagent le fait que se sentir observé les amène à se mettre une espèce d'objectif, de pression et d'objectif à montrer que je vais tout de suite capable de soit faire preuve d'autorité, soit calmer mon enfant. Donc, quelle que soit la voie qu'on choisit, en tout cas, il y a un vrai impact du regard des autres, alors que c'est tellement bénéfique de se dire, je me mets dans une bulle, il n'y a à cet instant précis que moi et mon enfant, ou moi et les autres et mon caddie, enfin, peu importe, mais de pouvoir se remettre dans sa bulle et de se dire que notre objectif atteignable, il est peut-être davantage d'être présent pour son enfant à ce moment-là que de démontrer quelque chose aux autres.
Donc, qu'est-ce que tu conseilles dans ce genre de situation? Alors, donc, c'est vraiment de se centrer sur son enfant pour faire quoi? Pour comprendre ce qui se passe en lui à ce moment-là?
Alors, oui, en tout cas, moi, je prends souvent cette image de la bulle parce qu'elle nous dégage, elle peut nous dégager du regard des autres et elle va aussi changer nos objectifs. C'est-à-dire que je vais me dire, je suis là pour cet enfant, mon objectif n'est pas de le calmer. Donc là encore, tu redescends d'un cran en pression, c'est-à-dire que je n'ai pas à faire mes preuves et je n'ai pas à le calmer. Par contre, mon rôle, c'est de l'accompagner. Il est en train de vivre une espèce de débordement émotionnel. Alors, soit il y a eu le paquet de bonbons. Parce que les grandes surfaces, c'est quand même coquin pour les enfants. Entre l'état dans lequel ça nous met, nous, en tant qu'adultes, et ce que ça suscite pour eux en termes de stimuli visuels, sonores, de fatigue, et les as du marketing qui sont peut-être pires ennemis des parents. tu vois, tout le merchandising, enfin, toute cette. C'est le fait de mettre à hauteur d'enfant certains objets. Donc, déjà, si on prend en compte tout ça, il a plein de raisons au bout d'un moment d'exploser. Ouais. Parfois, il va y avoir un alibi, donc ce fameux paquet de bonbons. Mais qui est cet alibi ou pas, c'est de se dire, ok, je comprends, là, c'est difficile, mais tu peux pas t'enfuir du magasin. Mais tu peux pas crier. Parce qu'on est au milieu d'autres personnes. Mmh. Donc, en fait, finalement, de pouvoir déconnecter l'acceptation de l'état émotionnel de l'enfant, du comportement, c'est-à-dire que, typiquement, là aussi, c'est une question d'équilibre. On dit qu'il faut accueillir les émotions de notre enfant. Et il y a des parents qui me disent, oui, mais il crie et il y a le voisin qui vient sonner chez nous, en fait. Donc, accueillir les émotions des enfants, ça n'est pas non plus accepter toutes les formes d'expression des émotions.
D'accord.
Là encore, selon l'âge, je ne dirais jamais un nourrisson, je comprends, tu as très faim, mais par pitié, cesse de crier.
Arrête de pleurer.
Donc, on va toujours l'adapter à l'âge.
Tu lui proposes quand même d'exprimer cette émotion-là, alors de manière différente?
Oui, ou en tout cas, mais juste des fois, de dire à l'enfant, je comprends.
Tu avais très fatigué.
Tu avais très envie de ce paquet de bonbons, et comme je ne l'achète pas, que j'ai dit non, tu es très déçue. Déjà, rien que juste, tu avais envie de ce paquet de bonbons, et là, il y a 90% des enfants qui disent oui, et on change. C'est comme si on passait par un aiguillage.
Oui, t'es dans un autre
geste. C'est-à-dire que le moment où tu poses une question, il peut dire je me sens compris, le je vous ai compris, est déjà un infléchissement dans quelque chose d'autre.
D'accord.
Et tu vois, on n'est pas dans je vais le calmer, mais je vais déjà juste dire ok, je comprends, tu le voulais très fort, il t'a beaucoup plu, tu le trouves génial, cette peluche. Et dès qu'on accepte ça, on change déjà d'un cran. Après, selon ce que ça donne comme résultat, on va écourter nos courses, on va le tenir par la main, on va ressortir le doudou. Voilà, on va chercher plein de stratégies possibles pour accompagner cette émotion sans autoriser toutes les formes d'expression.
Je lisais dans un magazine de psychologie positive, dans ce cas-là, il faut monter avec lui une stratégie pour finalement focaliser son attention sur autre chose et finalement mettre son énergie à profit et lui dire eh ben écoute je sais pas par exemple si tu veux bien eh ben toi tu vas être responsable d'aller chercher les pâtes alors on y va avec lui bien sûr on laisse pas crapahuter dans le magasin mais finalement de détourner
de pas là
pour le
biaiser
mais en tout cas donner une autre saveur aux courses finalement parce qu'on est sur l'exemple du supermarché
mais tu vois dans les accompagnements ça se passe un peu sur les deux tableaux et souvent on dit bon cette crise se produit, j'ai pas su l'éviter, comment je réagis donc je reconnais l'émotion, je fournis aussi des clés d'explication à l'enfant. Là c'est tout tu es fatigué donc c'est plus difficile pour toi quand je dis non, pareil j'attends pas que ça le calme mais j'alimente et je crée des situations d'apprentissage. Mais après, on va beaucoup travailler en anticipation. Donc, comment vous faites quand vous allez faire vos courses à 19h avec des enfants fatigués et que vous l'êtes aussi? Bon, on va se dire, y a des parents qui vont dire, ok, ben, faut que j'arrête les courses à 19h. En fait, c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux que je le fasse à tel moment ou que je laisse les enfants.
Et
voilà.
Et ça peut être une solution, par exemple?
Ben, parfois, oui.
Ouais, okay.
Si, tu vois, si pour des petits, de fait, se dire qu'ils vont faire les courses sans broncher à l'heure où ils sont fatigués, si c'est pas le genre d'enfant qui s'endort tranquillement au fond du caddie ou en toutes circonstances, ouais, des fois c'est une façon de calmer le jeu.
Bien sûr.
Vois, ça veut pas dire que tu pourras jamais faire les courses avec ton enfant.
Bien sûr.
Mais quand ils sont petits et qu'à chaque fois ça se répète et que la crise elle est là et que ça a un impact sur la relation à l'enfant, la suite de la journée, etc. Oui, parfois la solution c'est de se dire je change mon organisation. Et là encore, c'est ça qui va dépendre de chaque famille. Il y en a qui vont me dire, bah attends, mais en fait, je me disais, je devrais pouvoir faire les courses avec mon enfant, je ne comprends pas pourquoi il fait une crise à chaque fois, et qui se disent, ok, j'avais peut-être des attentes un peu idiotes, alors que j'ai d'autres moments pour faire mes courses.
Il y en a que finalement, ce n'est pas tellement ça l'enjeu.
Et que ce n'est pas l'enjeu, qu'ils vont être amenés à se dire, attends, mais en fait, j'en faisais une histoire de principe, du coup, je les emmenais à chaque fois, ou à chaque fois, je les attendais au tournant, est-ce qu'ils vont encore. Et tu recommences. Donc, tu vois, ça peut être ça. Ça peut être aussi, mais c'est là où je reviens à ta question, ça peut être typiquement d'anticiper les courses en disant je confie la liste au grand qui sait lire, je mets le petit dans le siège et je m'approche de chaque rayon, il attrape, je mets le petit dans le caddie et je lui demande de classer
de
comme un puzzle,
de
ranger les choses dans le caddie. On peut trouver des milliards de choses.
Bien sûr.
On peut dire au grand, est-ce que tu repères les criteaux qui nous donnent le rayon des pâtes? Voilà, toutes ces choses-là,
surtout qu'on sait très bien que les enfants, on arrive très facilement, finalement, avec peu de choses, à les distraire, à les occuper et à varier les plaisirs, finalement.
Et ce qui va t'orienter en tant que parent sur l'une ou l'autre des décisions, c'est aussi de dire, est-ce que j'ai encore l'énergie de mettre cet enthousiasme-là à cette heure-là? Si je me dis, ok, j'ai assez décrypté ce qui se passe pour lui et vu l'intérêt de le faire, je me sens capable. Bah, on ne change pas, on fait les courses, mais alors on anticipe un petit peu comment on s'organise, des règles, etc. Et si c'est je ne m'en sens pas capable, alors soit tu renonces à faire des crises avec un enfant tranquille, qui est rarement l'option désirée par les parents, soit tu cherches un autre moment pour faire tes courses.
Mais on va pas se mettre consciemment en difficulté alors qu'on ne se sent pas l'énergie d'affronter, entre guillemets. C'est pas un affrontement, mais en tout cas de gérer la situation.
Et tu vois, si je refais, je reviens sur cette question de la parentalité aujourd'hui, tu ouvres des bouquins et tu vas souvent voir confier des missions à vos enfants pour faire les courses facilement. Sauf que si tu fais ça en gestion de crise, bah, c'est plus compliqué parce qu'une fois que ton enfant il est épuisé, que tu lui as crié dessus ou que tu t'es agacé, c'est plus là le moment de dire alors est-ce que tu vois où est le rayon des pattes ?
Parce que lui-même, de toute façon, il n'a plus l'énergie à ce moment-là.
Il n'a plus l'énergie, le parent peut avoir aussi une espèce de ressentiment qui s'établit vis-à-vis de l'enfant. Il m'a fait une crise, alors là maintenant, il a intérêt à filer droit parce que voilà. Et c'est ce qui met aussi parfois les parents en difficulté, c'est-à-dire qu'il y a toute une bibliothèque de plein d'astuces possibles, sauf que souvent, si tu les prends en après-coup, elles te donnent un sentiment d'échec, c'est-à-dire que tu te dis, j'ai pas réussi, ou je lui ai confié une mission et il a pas fait, mais oui, mais en fait, il est fatigué. Et en fait, on n'a pas toujours aussi la vision du contexte, de l'état d'esprit de l'enfant, de nos attentes de parents, etc.
Et puis quand bien même ça marchera une fois, ça ne veut pas forcément dire que ça va marcher le lendemain aussi. Et c'est pas grave. On est aussi là pour tester. Et quand on devient parent, d'ailleurs, on n'est pas formé à ça. On découvre aussi sur le tas. Et du coup, il faut tester. Et puis si ça ne marche pas, on teste autre chose. Et puis quand bien même on teste autre chose, à un moment donné, il y a peut-être un jour où ça ne marche pas. Et c'est comme ça. Parce que ce jour-là, il y a un contexte, un concours de circonstances qui fait que voilà.
Ouais, des fois il y a les jours avec et les jours sans.
Bien sûr, donc il faut aussi accepter que les enfants soient comme ça aussi.
Ça permet aussi de relativiser notre rôle de parent. Est-ce que mon rôle c'est de faire que chaque crise, alors on pourrait même dire parce que mon rôle c'est d'éviter chaque crise. Bon, et quand il y a des crises, est-ce que mon rôle c'est d'arrêter chaque crise ou est-ce que mon rôle c'est d'accompagner chaque crise? Moi, je propose de les accompagner plutôt que de se mettre l'objectif de les arrêter, de dire à quelqu'un de se calmer, ça fonctionne pas, et de se mettre comme objectif de calmer les émotions d'une tierce personne qu'on ne maîtrise pas, c'est un peu on risque de pas y arriver à tous les coups et du coup d'en retenir un sentiment d'échec. Si on se dit je fais de chaque crise un moment où j'accompagne mon enfant et où j'essaie de lui apporter quelque chose de plus, en fait, dès lors qu'on poursuit ce genre d'objectif, de fait, ces crises-là se produisent de moins en moins souvent.
D'accord. Et du coup, j'imagine que tu dois aussi rencontrer des parents qui, à un moment donné, se remettent même totalement en cause et doivent se dire « Mais en fait, je suis vraiment pas douée, je sais pas, je suis pas une bonne mère ou je suis pas un bon père. »
Alors, en principe, jamais au cours d'un accompagnement. C'est-à-dire que moi, je me dis « J'ai fait mon job » quand je les entends dire « J'ai retrouvé confiance en moi en tant que maman. » Je me suis rendu compte que, en fait... je suis une mère, alors peut-être pas la bonne mère, pas cette vision d'une image de perfection, de réussite.
Bien sûr.
En fait, je suis la bonne mère pour cet enfant, ou la mère suffisamment bonne, si on reprend l'image de Winnicott. Mais par contre, quand ils viennent me voir, ils ont parfois cette crainte de dire « j'ai tout loupé, j'ai peur que ce soit fichu ». Et j'ai parfois entendu « j'ai loupé mon éducation, j'ai raté mon éducation, je me suis trompée ». Voilà, au départ, il y a souvent cette crainte-là qui est en fait juste ce sentiment d'échec quand les choses ne se passent pas comme on le voudrait.
Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu leur réponds alors à ces parents-là ?
Alors, moi surtout, j'estime qu'il n'y a rien de définitif, que tout peut changer et qu'il suffit de revoir les choses sous un autre jour et de vraiment toujours privilégier la relation, en fait. En fait, tant que la relation est mise comme... je reprends mon image d'échelle, et la chose la plus importante... pas dénaturer, pas casser, pas abîmer cette relation, et en fait, après, tout peut revenir, quoi.
D'accord. Et alors, concrètement, tes accompagnements, comment ça se passe ? Tu peux nous préciser, en fait, est-ce que tu es amenée parfois à accompagner au supermarché ?
Non. Non, je ne suis pas super naïve. moi, si je prenais une image, je suis plutôt dans l'oreillette, c'est-à-dire que je débriefe avec les parents, je leur donne des clés. Une des phases essentielles de mes accompagnements, c'est de définir ce que j'appelle la ligne de conduite. Donc on va prendre le truc, le point noir, le truc qui les empoisonne le plus dans le quotidien comme priorité. Et sur cette base-là, on va définir comment je fais quand ça se produit, qu'est-ce que je dis, quels sont mes objectifs, quelles sont les limites que j'établis. Parfois les parents me disent « mais est-ce que je dois vraiment me braquer quand elle veut mettre des collants alors qu'on est en plein été ? Je ne sais plus à quoi je dois dire oui. » Donc, on prend le temps de se dire « Attends, qu'est-ce qui est important pour moi ? Quelles sont mes priorités ? Comment je le partage avec mon enfant ? » Et ensuite, tout le chapitre que j'évoquais tout à l'heure, « Qu'est-ce que je fais pour éviter, pour anticiper, éviter que ça se reproduise ?» Je travaille sur des séances de coaching. Je propose des forfaits, c'est-à-dire que j'ai construit des méthodologies, une méthodologie, mais qui se décline en deux forfaits différents. et qui alterne des ateliers que les parents font chez eux à tête reposée.
D'accord.
Et cette méthodologie, elle a un cheminement, c'est-à-dire qu'on va aborder différents thèmes, suivre une progression. Donc dans les deux cas des forfaits, on a ce même cheminement. Simplement, je propose un forfait qui permet de travailler sur un objectif ciblé et vraiment de travailler sur placer le curseur sur un point spécifique.
D'accord.
Un autre qui fait un travail un peu plus profondeur qui va permettre de, là encore, régler le truc le plus empoisonnant pour préserver cette relation. Mmh. Et ensuite, tirer d'autres fils pour faire le point sur l'équilibre,
sur les
émotions, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, sur les limites, après tout, quelles sont celles que j'ai vraiment envie de partager avec mon enfant, etc. Mmh.
Et donc, ces ateliers, comment ça se passe?
J'ai créé des ateliers qui utilisent plein de modes d'expression. Je laisse carte blanche sur la façon d'y répondre. Mmh. De fait, il y en a, on va plutôt écrire. D'autres, on va schématiser les choses.
D'accord.
Ça permet vraiment d'entamer pour chaque séance l'objectif qu'on a sur cette séance et d'entamer ce travail de réflexion. Ce qui fait que quand on se voit pour une heure, le parent, il a déjà cheminé sur cette question de... Qu'est-ce qui est le plus empoisonnant chez moi aujourd'hui, par exemple, si je prends les premiers temps. Moi, j'ai déjà regardé ça et j'ai pu commencer à me dire qu'est-ce qui revient le plus, parce que ce n'est pas forcément ce qu'on dit en premier lieu. On a tous les deux, en fait, préparé à notre échelle la séance et du coup, c'est un peu quelque chose qui booste l'efficacité des séances.
Et donc, c'est un travail que tu peux faire en physique, enfin, en tout cas, les séances en face à face, mais que tu fais aussi à distance aussi.
Ouais. Alors, je travaille essentiellement à distance.
D'accord.
Par état de fait, je dirais. Je l'avais ouvert au départ parce que pour moi, c'était aussi par rapport à mon organisation. En étant en Île-de-France, je me disais, je veux que mon temps il soit pour les parents et je veux pas qu'il soit dans les transports. Mm-hmm. En Île-de-France, tu as des problématiques de te dire. Mm-hmm. Je vais pas passer une heure, enfin c'est idiot de passer une heure et demie dans les transports. Donc je me dis, je vais développer ça en le rendant possible en ligne. Mais de fait, ça m'a permis de travailler avec des parents partout en France et même dans des pays francophones en fait. Et en plus, je me suis rendu compte que c'était une opportunité d'organisation pour les parents. C'est-à-dire que pour eux dire,
bien sûr,
c'est pas un énième rendez-vous où il faut s'organiser à la maison, faire garder les enfants ou rendre la maison présentable ou quoi que ce soit, en fait, ça leur rend plus accessible la démarche.
Oui, bien sûr, en termes d'organisation, c'est léger.
Et du coup, je travaille beaucoup en ligne, non pas parce que je le mets comme contrainte, mais parce que les parents souvent me disent, si on peut se voir pendant que je suis au boulot, entre midi et deux, il y a une salle de réunion, pendant ma pause, je peux le faire.
Sûr.
Parce qu'en fait, quand ils récupèrent leurs enfants, ils ont envie d'être avec eux, pas de les récupérer encore plus tard. Mmh. Et quand ils sont avec eux, ils n'ont pas envie de se dire, je vais appeler une babysitter ou les déposer chez mes parents pour pouvoir faire une séance qui a pour but de me rapprocher, de simplifier, tranquilliser, apaiser mon quotidien.
Comment toi, tu en es arrivée à exercer ce métier-là? Je crois que c'est une forme de reconversion, en fait.
En tout cas, c'est une deuxième page, grande page, deuxième chapitre professionnel et du coup personnel aussi. J'ai été, moi, pendant une douzaine d'années consultante. Mm-hmm. Je travaillais dans les ressources humaines. Et mon job, c'était d'aider les entreprises à répondre à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés.
Okay.
Donc, en fait, à rendre possible le fait de travailler avec une personne handicapée et notamment à redéfinir qu'est-ce que le handicap après tout.
D'accord.
Donc, j'ai fait des études de sciences du langage et j'avais du coup écrit une thèse sur comment est-ce qu'on parle du handicap dans les entreprises. Mm-hmm. Donc, tu vois, en fait, tout ce côté communication, en fait, c'est vraiment... moi je me dis c'est mon expertise en fait, le langage, la communication, ce qu'on peut faire passer à travers tout ça.
Aujourd'hui c'est entre les enfants et les parents, mais à l'époque, en tout cas dans cette première vie professionnelle, c'était auprès des entreprises autour d'un sujet.
Et puis du coup c'était
spécifique.
Auprès de DG, donc de présidents, des directeurs généraux qui se posent la question du sens de cette démarche-là. C'était auprès de managers qui se disent « Ok, mon entreprise, elle a décidé d'intégrer des personnes handicapées, mais alors moi, je ne suis pas prêt. Moi, ça me dérange. » Donc, c'était aussi à la fois une... Enfin, c'était vraiment quelque chose qui, à première vue, était hyper humain. En tout cas, tout le monde m'enviait ce job plein de sens. Pour autant, c'est aussi des métiers qui sont un peu frustrants parce que parfois, c'est une démarche un peu de cocher des cases. Est-ce que j'ai mon bon nombre de travailleurs handicapés? C'est fait. Est-ce que j'ai une belle politique humaine? Ou ou est-ce que le H de ma DRH a vraiment du sens? Est-ce que j'ai de quoi remonter dans les notations de responsabilité sociétale des entreprises? Ok.
Il y a un côté aussi un peu marketing.
Un peu marketing, en tout cas, il y a un gros enjeu de communication et de positionnement des entreprises là-dessus, qui m'amenait moi à me poser des questions sur mon propre alignement et mon investissement aussi. Parce que quand c'est une source de frustration, c'est pas très agréable professionnellement. Donc je vivais ça, j'ai eu un premier enfant, deux enfants, et puis à cette frustration-là sur des questions en fait un peu de valeur et de sens de ces démarches-là, s'est rajoutée la contrainte et la frustration du temps, c'est-à-dire que je passais pas assez de temps à mes yeux avec ces enfants que j'avais faits, je les avais vraiment faits pour être avec eux. Et je les retrouvais trop tard le soir. Je disais sur le ton de l'humour, mais je suis jalouse de ma nounou en fait. Parce qu'elle, elle passe toute la journée, le parc, le truc. Et moi, j'arrive. Et je dis oui, attends. Et attends, oui, le bain d'abord. Ok, attends, on mange. Et c'était très frustrant. Surtout que voilà, le job de consultant, c'est un job un petit peu où on n'est censé pas compter ses heures. J'avais réussi ce que je trouvais très ardu. À garder mon 4/5e que j'avais mis en place à la naissance de mon premier enfant, mais je le payais le prix fort, c'est-à-dire que je bossais, je rentrais avec l'ordi, je bossais le soir, et donc le matin, une des choses que je ne sais pas pourquoi, que je détestais, c'était de réussir quand même à aller à l'école à 8h30, mais d'avoir les talons, le tailleur, l'ordinateur portable sur une main, tous les supports de formation, parce que j'allais animer une formation à l'autre bout de Paris dans la demi-heure qui suivait.
Wonder Woman, quoi.
Et ça, en fait, pour moi, c'était pas du tout Wonder Woman. J'arrivais épuisée, en fait, et frustrée d'être ni autant disponible que je l'aurais voulu pour, voilà. Tu sais, avant d'attaquer une formation, toi aussi, de te mettre en condition.
D'arriver suffisamment à l'avance pour préparer convenablement sa journée, se sentir prête, pas dans l'urgence.
Et voilà, et j'avais pas non plus, mais c'était surtout physiquement que je le ressentais le plus, la disponibilité pour mes enfants. J'étais tellement chargée, tellement prise par le temps, c'était littéralement lourd à porter. En fait. Et il y a eu un moment, je me dis, c'est plus possible en fait. Moi, j'ai pas mon équilibre. Tu vois, je parle souvent d'aider les parents à retrouver un quotidien serein, travailler sur l'équilibre. Moi, il n'y était plus en fait. Et je me suis dit, ok. Là, ça faisait un moment que ça venait, et tu sais, il y a le moment où tu te dis, je me sens prête à reposer tout à plat et me dire, ok, comment on fait?
Là, il faut changer des choses.
Et donc,
ça devient nécessaire de le faire plutôt que de rester dans cette situation-là.
C'est ce point de bascule où tu as plus à perdre.
T'as
plus à gagner. Tous les avantages d'un certain confort aussi que tu y trouvais jusque-là.
Ce n'est plus un confort finalement. Là où à l'origine c'était une zone de confort, finalement c'est devenu une zone d'inconfort.
Et donc j'ai été prête à prendre des risques alors que c'était quelque chose qui me faisait vraiment très peur avant. Et j'ai travaillé avec une coach. On a tout mis à plat. Et de là est né Paisy en fait.
D'accord.
Et Paisy, ça s'écrit P-A-I-Z-Y, mais c'était pour moi ce truc de retrouver un quotidien paisible pour les parents. Il y a aussi le papa de mes enfants est grec, et donc Paisy en grec, ça te permet de parler à la fois de l'enfant, donc le Paisy qui a donné pédiatre, et Paisy, c'est aussi littéralement il joue. Et donc voilà, c'était de se dire, on met le jeu, l'enfant au centre de notre quotidien, et comment on en fait un quotidien agréable.
Donc, c'est passé par un travail que tu as fait de questionnement sur toi, de remise en cause, etc. Combien de temps il s'est passé entre le moment où tu t'es dit là, il faut changer les choses et la naissance de Paisy et l'activité concrète?
Ça s'est fait assez vite, en fait. Quand tu es dedans, tu as toujours l'impression que c'est hyper long. Mais en fait, en un an, j'étais partie de zéro et j'avais tout d'un coup l'évidence. Je vois ton bouquin Ikigai. Cette évidence que ma place à moi, c'était celle-là. C'était
Ikigai,
ce que je savais. Ce que j'avais à faire dans ce bas monde, quoi, c'était d'accompagner des parents qui veulent plus crier sur leurs enfants, c'était de permettre à des enfants de se sentir toujours proches de leur, connectés à leurs parents, soutenus, accompagnés, de grandir en confiance. Mm-hmm. Et ça, ça a pris très peu de temps, en fait, parce que j'ai très vite dessiné les contours de ce qu'allait être Paisy, comment j'allais bosser, qu'est-ce que j'avais à apporter, quelle était aussi ma voix, en fait, sur ce chapitre-là, où il y a beaucoup d'expressions aussi sur la parentalité aujourd'hui. Et en fait, mon troisième enfant est né à ce moment-là. Et donc, en fait, je suis arrivée à... Je
sais ce que va être Paisy. Au moment où tu as créé ton activité.
D'accord. Oui, il n'y a pas de hasard. juste avant d'accoucher, en fait, j'ai défini les contours de Paisy. Une semaine après, j'accouchais. J'avais cette bulle où je savais que, comme je l'avais fait pour les autres, j'allais être disponible pour lui, ma famille, sa reconfiguration, etc. Et je savais que 6 mois après, progressivement, tu vois, finalement, peut-être 9 mois, j'allais reprendre une vie professionnelle, mais une autre.
Ouais. C'est en fait,
et donc après, pareil, en quelques mois, j'ai travaillé, je dirais, en chambre, c'est-à-dire que j'ai vraiment créé ma méthodologie, ces fameux ateliers. Mm-hmm. Voilà, au départ, je me disais, c'était long, j'avais l'impression de ne pas avancer autant que je le voulais. Mais en fait, ça vient très vite. Quand tu regardes arrière, c'est pas si
finalement, tu avais quand même un enfant, tu avais quand même 3 enfants en bas âge, dont un tout petit aussi.
Oui. Oui, oui.
Il fallait gérer.
Mais tu vois, quand j'étais dans cette période de bulle autour d'une naissance, j'étais pas partagée. Enfin, voilà, j'étais pas prête surtout à revivre ces trucs de tiraillement entre le boulot et. Oui. C'était. À un moment, c'était ce temps-là, il est pour les enfants. Et je le vivais avec la satisfaction de me dire, je sais ce que je fais après. Et je retourne pas dans ce tunnel de vie de consultante.
Mmh. Même si tu sais ce que tu fais après, mais tu n'as pas non plus la visibilité de qu'est-ce que ça va donner, comment ça va marcher,
ouais,
comment l'activité
vrai.
Va se développer. Il y a aussi quand même une part de risque
bien
que
sûr.
Tout le monde n'est pas prêt à prendre, même si tu as identifié ce que tu veux faire, mais malgré tout, tu restes aussi dans l'inconnu de ce que ça va donner.
Mais tu vois, j'étais vraiment à un point où juste savoir ce que j'allais faire après, c'était déjà énorme pour moi.
En fait.
Peut-être même que je négligeais le. J'avais peut-être perdu de vue le risque de dingue que j'étais en train de prendre. Enfin, ma famille me le rappelait souvent. Mais.
Parce que finalement, toi, ton objectif à ce moment-là, c'était de retrouver ton équilibre.
C'était de rééquilibrer notre vie de famille. Ouais.
Et du coup, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça, c'était, ça, c'était l'objectif. Mm. Donc, à partir de là.
Exactement.
C'est pas que le reste ne compte plus, mais.
C'était déjà énorme. En tout cas, moi, j'étais tranquille. J'étais tranquille parce que j'avais trouvé cette réponse-là de comment... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai cru que j'étais pas capable de travailler et d'être là pour mes enfants. Et j'ai eu ce pressentiment, et c'est pour ça que j'ai fait appel à quelqu'un. Je me suis dit, je crois que je me trompe. Je crois que la question, c'est pas de... Est-ce que je suis assez disponible d'esprit pour réussir à faire des journées de boulot et d'être là pour mes enfants le soir? Non, en fait, c'est quel boulot j'ai envie de faire quand je ne suis pas avec mes enfants.
Okay.
Et j'ai eu cette intuition que... Parce qu'à un moment, je suis passée par cette réflexion-là de me dire, bah, en fait, il faut qu'on réfléchisse, mais je crois que je ne suis pas capable, en fait, de travailler.
De faire les deux.
Et j'ai appelé cette coach en disant, j'ai l'impression, j'ai envie de... Je ne m'y retrouve plus. Je crois que je ne suis pas capable de bosser, mais j'ai l'intuition que je me trompe et qu'en fait, il faut juste que ce que je fasse... me permettre de déposer mes enfants sereinement à l'école. À l'époque, j'avais mon aîné, je pense qu'elle est à l'école, peut-être sans doute le deuxième déjà aussi. Je veux les déposer à l'école sereinement et les retrouver chaque jour à 4h30. Je ne veux plus être là à 19h avec des informations refroidies. Quoi. Je veux être là à 4h30 et avoir devant nous la soirée avec eux. Et c'est là-dedans que s'est créé Paisy, en fait.
Mm-hmm. Oui, et en même temps, pour autant, là, c'est un contexte, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on rêve tous, enfin, ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'obligation à rêver de ça, mais on est quand même globalement assez nombreux et nombreuses à rêver de ça, de pouvoir à la fois emmener nos enfants et à la fois pouvoir les retrouver, avoir une soirée paisible, comme tu dis. Mais au-delà de ça, il faut aussi que le contenu de la journée soit intéressant, qu'on ait l'enthousiasme finalement à faire ce qu'on fait, à faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose qu'on aime, parce que tu parlais de l'ikigai tout à l'heure, typiquement c'est ça, si à un moment donné tu t'épanouis pas dans ce que tu fais, ça, en général ça ne tient qu'un temps, en tout cas, parce qu'il faut aussi trouver cette forme
d'intérêt. En tout cas, ça dépend, je pense que tu peux avoir cette vision que tu fais un job alimentaire, mais si tu sais pourquoi tu le fais, est-ce que ça nourrit après tout, enfin tu vois, c'est chacun.
Ça peut convenir aussi. Tout à fait.
Mais voilà, pour moi, le besoin de sens, il est énorme. La cause des enfants est une des causes qui me tient vraiment, vraiment à cœur, tu vois. Et donc tout ça ensemble, ça fait que non seulement ça me permettait de comprendre que oui, j'avais quelque chose à faire ici et que oui, j'avais envie de travailler. J'avais juste envie de travailler différemment et de me sentir vraiment alignée sur ce qui compte pour moi, comment je vois les choses, le rôle de parent. La valeur des enfants, la préciosité de l'enfance, en fait, tu vois, tout ça. Et que bah, je ne veux pas qu'il y ait des parents qui regrettent et qui aient ce sentiment de dire « je suis passée à côté de leur enfance parce que j'avais mes attentes, parce que je m'étais dit qu'un enfant, ça devait s'endormir à 20h. » Tu vois, et tout ça, en fait, m'a fait moi-même me dire « en fait, j'ai envie de travailler. » C'était plus dans ce sens-là, de pouvoir comprendre que être là pour mes enfants, ça ne voulait pas dire être là tout le temps, mais ça voulait dire être vraiment bien quand je suis là avec eux et plus avoir cette frustration, voilà. Et surtout, tu vois, j'avais des moments, alors ils étaient petits aussi, mais de fait les séparations devenaient difficiles parce qu'ils voyaient bien que moi j'allais pas
avec enthousiasme
au boulot. Je pense que les enfants ils perçoivent très bien ce genre de choses et ils me disaient bah non, je veux pas que tu travailles. Et donc ça touchait une corde sensible à ce moment là Et aujourd'hui, ils me disent, est-ce que tu as aidé des parents? Est-ce que tu as fait ta pub? Est-ce qu'il y a des personnes qui voient ta pub? Et tu vois, finalement, je leur montre un autre rapport au travail, un autre investissement, un autre impact, en fait, aussi, que je suis fière de pouvoir leur montrer, un autre rapport au travail.
Qu'est-ce que tu voudrais donner comme grand conseil, j'ai envie de dire, aux parents qui se seraient reconnus dans tout ce qu'on vient de se dire? S'il y avait une chose essentielle à retenir ou par laquelle il faudrait commencer, ce serait quoi?
Ah, attends, il y a deux choses qui me viennent.
Bon, alors, je t'accorde deux choses.
Souvent, je sais que donc, le métier que j'exerce, c'est le coaching parental. Et ça soulève souvent pas mal de freins qui sont liés au fait de se faire aider. Donc, une première chose qui me vient, c'est chouette de se faire aider, en fait. Et presque, en fait, ça fait partie de notre rôle. Mmh. Quand on se sent démuni, notre rôle, il n'est pas de performer tout le temps. Notre rôle, il est de dire, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Quand je me sens démuni face à une situation que je vis de façon récurrente avec mon enfant, que le quotidien de la vie de famille s'en trouve détérioré et que ma relation à mon enfant est impactée, en fait, mon rôle, c'est de dire, je cherche de l'aide qui peut m'aider.
Des solutions extérieures.
Et que faire appel à un coach parental, par exemple, n'est en aucun cas un aveu de faiblesse, en fait.
Ou un échec.
Ni un échec. C'est-à-dire que, voilà, par contre, on est encore cette génération de charnière où nos parents ont fait 100. Nos parents n'ont jamais payé pour être conseillés. Et en même temps, c'est même pas ça le job. Mais dans les représentations, c'est que je vais quand même pas payer pour qu'on me dise comment élever des enfants. Ça se fait depuis la nuit des temps. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi. Et celui-ci va juste se mettre au pas et puis tout sera réglé. Quand on vit des difficultés, de se dire je vais chercher de l'aide.
Et d'ailleurs, et c'est vrai pour ce sujet-là, mais comme tous les autres sujets, finalement, en fait.
Bah bien sûr.
N'importe quel autre sujet dans la vie. Personnel ou professionnel,
Mais celui des enfants, souvent, je trouve, catalyse encore d'autres dynamiques. C'est-à-dire que se faire aider pour perdre du poids, c'est classe, quoi.
Oui, maintenant.
Ah ouais, t'as un coach sportif. Ouais, mais qu'est-ce qu'il te fait faire et tout. Et se dire, j'ai un coach parental, c'est pas. Ça
c'est
renvoie pas la même image.
Faiblesse.
Ouais. Et j'en parlais avec une des mamans que j'ai accompagnée récemment qui me disait, j'étais pas très à l'aise. Et j'en ai parlé au boulot parce que plus on travaillait ensemble et plus j'étais fière de ce que je faisais et fière de qui j'étais pour mes enfants. Et plus je me suis mise à en parler au boulot et en fait, j'ai été surprise de voir l'admiration que ça suscitait. Mm-hmm. Ah ouais, tu l'as fait.
Tu l'as fait, t'as osé.
Ah ouais, mais t'as raison. Mais c'est toi qui... Enfin, donc voilà.
Je pense que ne pas hésiter,
même si on a pas mal de représentations sur ce qu'on devrait être capable de réussir, que être parent, ça s'apprend pas. Ben si, je crois, être parent des enfants d'aujourd'hui, peut-être que ça s'apprend un peu plus que les parents des enfants d'hier, je pense. Et puis la société fonctionne pas pareil, on n'a pas la même entraide. Enfin voilà, tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc oser demander de l'aide et en être fier. Ensuite, ce qui peut changer une situation et apaiser les choses, je me rends compte que c'est vraiment d'avoir un éclairage et un décryptage. C'est-à-dire, plupart des parents, dès lors qu'ils portent un autre regard sur la difficulté qu'ils sont en train de vivre, il y a quelque chose qui redescend déjà d'un cran.
Le fait de prendre du recul, tu veux
dire ? Ils prennent du recul, ils se disent, c'est vrai, après tout, c'est quoi mon objectif ? Mince, en fait, je suis en train de passer à côté de quelque chose. Mon enfant, il me demandait juste Je me souviens, tout d'un coup, je repense à cette maman qui, voilà, fin de journée, tu sais, le créneau 17h, 19h, l'aîné qu'elle trouve infernal, qui refuse de lui dire bonjour quand elle le récupère à l'école maternelle et qui refuse de dire bonjour à la nounou. Qui voulait être portée, je sais plus. En tout cas, il exprimait quelque chose, ça fonctionnait pas. Il arrive chez la nounou et il refuse de dire bonjour à la nounou. Elle dit, écoute, en fait, si tu dis pas bonjour à la nounou, tu restes dehors. Donc l'enfant s'effondre. Et en fait, elle a pris le temps d'en parler avec lui après. Et il lui a dit, mais moi, j'avais besoin que tu me fasses à moi un câlin d'abord. Elle dit, mais c'est vrai, j'ai été le chercher. Je lui ai dit, mets ton manteau, on va chercher ton frère. Et après, j'exige qu'il dise bonjour à la nounou. Et en fait, c'était lui qui avait besoin que moi, je lui accorde ce bonjour des enfants qui est ce regard direct. Tu vois, la politesse aussi par quoi elle passe quand on a 3 ans. La salutation, elle n'est pas forcément la même. Et tu vois, ces décryptages-là font vraiment ont vraiment un gros impact sur des situations difficiles. C'est-à-dire que...
Oui, parce qu'en fait, le parent, à ce moment-là, il a une réponse vis-à-vis de l'enfant parce qu'il apporte une réponse à la situation selon son schéma de lecture, à lui. Et moi, je dis souvent, en fait, on a tous une paire de lunettes, en fait.
Exactement.
On voit la vie au travers de nos propres lunettes, mais on n'a pas tous les mêmes verres parce qu'en fait, on n'a pas... On n'est tout simplement pas les mêmes personnes, on n'a pas le même vécu, la même expérience, etc. Et du coup, en tant que parent, on réagit avec notre lecture de la situation, mais l'enfant a sa propre lecture. Donc c'est ça que tu es en train de dire. En fait, c'est réussir à prendre du recul sur la situation, peut-être même presque sortir de la situation.
Oui, c'est ça, changer de regard. Et je me rends compte que par la suite aussi, quand on travaille ensemble, il y a plein de mamans, tu sais, qui disent « j'aimerais être patiente, je ne suis pas patiente ». J'en dis souvent, la patience, c'est pas un effort, en fait. Les mamans que vous trouvez patientes, c'est pas des personnes qui se disent, ce matin, je vais être patiente. Parce que ça, c'est la meilleure façon de pas réussir à l'être très longtemps. Et en fait, elles se rendent compte que, effectivement, cette patience, elle est directement corrélée à leur capacité à comprendre. Et en fait, plus elles ont de clés, plus elles ont de ressources pour être cette maman patiente, quoi. Tu vois, c'est la maman calme. Parce qu'en fait, de leur sérénité à elles découle leur capacité à accueillir les moments où les enfants ne sont pas sereins et à aider leurs enfants à retrouver plus de sérénité.
D'accord.
Donc je pense que vraiment
chercher à devenir patient, en fait ça vient naturellement quand on arrive à acquérir ces clés justement pour décrypter l'enjeu qui est en train de se passer pour l'enfant.
Ce serait peut-être pas la vérité de tous les parents, mais en tout cas
ce que t'as vu,
que moi j'accompagne, je le vois souvent de dire, mais maintenant que je comprends, en fait, ça vient tout seul, la patience, en fait. Et je fais ce que j'avais envie de faire pour mes enfants, alors qu'avant, je disjonctais et j'étais exactement celle que j'avais pas envie d'être. Et donc, ça m'amène à l'autre aspect de tout ça aussi, c'est que donc, pouvoir décrypter, et si on a besoin d'avoir un éclairage extérieur pour faire ce décryptage, c'est souvent quelque chose qui aide énormément, et être bienveillant envers soi-même. La plupart des parents... 100% des parents avec lesquels je travaille veulent être des parents bienveillants, veulent une éducation bienveillante, mettre la bienveillance au cœur de tout leur projet d'éducation. Mais en fait, parfois, ils se mettent une telle pression pour l'être, ce parent bienveillant, qu'en fait, ils ne le sont pas envers eux-mêmes.
Même pas vis-à-vis d'eux-mêmes.
En fait, c'est pas si bienveillant que ça de se dire « je vais être bienveillant ». En fait, être bienveillant serait de se dire « je vais faire ce que je suis capable de faire venant de là où je viens ». Avec les enfants que j'ai, le conjoint que j'ai.
Ce jour-là.
En tout
cas,
je vais
faire du mieux que je peux et ça sera très bien.
Et cette bienveillance envers soi-même, elle est vertueuse en fait. Et puis aussi, en fait, ça ne marche pas l'éducation bienveillante si elle est asymétrique.
Bien sûr.
Parce que les enfants, là encore, quel message implicite
on leur donne
quand on met ça vraiment. Sur le haut de l'échelle, la bienveillance, le respect, mais qui nous voit ne pas le faire pour nous-mêmes.
Quel message on leur...
En fait, ça cloche, en fait. Ça cloche, et c'est souvent dans ces situations-là où ils disent « je comprends pas, j'ai été patiente, j'ai été à l'écoute, ça suffit jamais. » Donc je me remets en cause, je me dis que j'ai vraiment tout loupé, parce que même en étant sympa, ça marche pas. Alors j'ai essayé de crier, mais crier, ça marche pas non plus, donc je suis vraiment dans une impasse. Et vraiment, voilà, c'est décrypter et la bienveillance envers soi-même, c'est vraiment D'accord. les choses que je trouve les plus vertueuses pour avancer sur des difficultés
Super.
Quand on y est confronté.
Est-ce que tu aurais aussi une source d'inspiration à nous donner je ne sais pas, un livre par exemple qui t'aurait marqué ou un film, je ne sais pas, mais en tout cas une source d'inspiration que tu recommanderais.
C'est le genre de question, je suis nulle pour répondre à ces questions parce que tout d'un coup je me mets la pression de dire attends,
il faut
truc,
que je trouve un
le truc ultime.
Allez, je t'en autorise encore deux cette fois-ci si tu veux.
Non, en fait, je vais faire à l'intuition. En tout cas, spontanément, la première chose qui me vient quand tu me poses cette question, c'est les accords Toltec, en fait.
Oui, ok.
Je trouve que, et entre adultes, et il y a un auteur qui l'a décliné récemment pour appliquer aux enfants, mais ces accords Toltec, finalement, passer le côté, tu sais, un peu mystique que ce bouquin peut avoir pour beaucoup de personnes. Qu'est-ce que c'est efficace en fait? Tu vois, tu reprends les quatre. Rien de personnel. Donc, c'est-à-dire, quand mon enfant se fâche, ce n'est pas contre
ce
moi.
Ce n'est pas contre moi. Je ne prends rien pour moi
voilà.
à titre personnel.
Donc, je le dis toujours, un enfant qui fait cette fameuse crise, c'est un enfant qui a un besoin non satisfait, qui cherche à répondre à son besoin et qui n'a peut-être pas la bonne façon de le faire, mais il essaye.
En fait, il ne fait pas la crise contre le parent, il fait la crise pour lui parce qu'il a besoin de...
Et je le dis en rigolant, mais pourrir la vie de ses parents n'est pas un besoin essentiel des enfants. Donc, rayez tout de suite ça, c'est autre chose. Il faut continuer à chercher. Donc, rien de personnel, c'est déjà, tu vois... voilà, je l'avais décliné moi sur pour gérer la fameuse crise des 2 ans, alors, ce qui serait même soit même en soi relativisé, mais c'est une situation qu'on décrit souvent, l'opposition des 2 ans et comment on gère. Mais typiquement, quand tu as un enfant de 2 ans que tu as l'impression que tu vas pas raisonner, de se dire que c'est pas contre toi, que c'est une étape de son développement par opposition, etc., ça fait baisser la pression, c'est-à-dire que ça nous évite nous d'y mettre une surcharge d'ego aussi. Je dois réussir, je dois être le parent qui calme, etc. Rien de personnel, il y a quoi d'autre? Il n'y a pas d'interprétation. Donc là encore, les « il me cherche »,« il se moque de moi
»,«
il
le
fait exprès ». En fait, dès que tu enlèves tout ça, là aussi, tu redescends d'un cran, tu t'apaises la situation et tu vas plus facilement « ok, donc qu'est-ce qu'il veut en fait ?» Et je vais lui demander, je vais... Alors, de fait, un enfant de 2, 3, 4 ans ne va pas dire de façon... va pas être capable de verbaliser de façon livresque ce qu'il est en train de vivre, mais il ne peut pas pouvoir dire... depuis quand est-ce que ça a commencé cette colère? Bah, parce que tout à l'heure, t'as pas. Ok. Donc, pas d'interprétation, il y a quoi d'autre? Que ta parole soit impeccable.
Voilà, c'est ça.
Et ça, ben bon, maintenant, enfin voilà, moi, la communication, je dis souvent, je suis docteur en sciences du langage, donc je soigne la langue et je soigne le langage. Tu vois, que ta parole soit impeccable. Quoi qu'on puisse dire à un enfant, qu'il n'ait jamais l'impression d'être une moins bonne personne. Oui. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment délétère, en fait. Oui. T'as encore renversé le truc et tu recommences comme ça. Ça, en fait, ça casse quelque chose à l'intérieur. Mais
Et on ne se rend pas compte à quel point ça casse au fur et à mesure, ça casse une petite chose, plus une petite chose, plus une... Et après, ça devient une croyance et une vérité pour l'enfant. Donc, ça a des conséquences vraiment...
Et une citation qui a été vue et revue et galvaudée, etc. Mais tu sais, la façon dont nous parlons à nos enfants devient leur petite voix intérieure.
Ouais.
Alors moi, je le propose souvent aux adultes en disant, qu'est-ce qui fait que tu te sens obligée d'être parfaite en tant que mère?
C'est quoi ta petite voix?
Mais pour les enfants, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que toutes ces paroles qui peuvent être dures, en fait, souvent, ne nous permettent pas d'atteindre notre objectif. Donc voilà, que ta parole soit impeccable, ça marche hyper bien pour les enfants. Et puis, fais ton mieux. Tu vois où je veux en venir.
Oui.
Sois bienveillant envers toi-même. D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu aurais déjà réussi à changer? Beaucoup de parents me disent, voilà, moi, j'ai été élevée à la dure, mais je ne veux pas faire pareil. OK, avec ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu peux transmettre à ton tour? Avec le chemin que tu as fait, qu'est-ce que tu peux faire parcourir comme chemin à la génération d'après? Et ça, c'est vraiment le truc qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire que chacun fasse, j'appelle ça le pas générationnel, c'est-à-dire au lieu de se dire la génération de parents d'avant avait rien compris, non mais ils faisaient n'importe, enfin ils étaient autoritaires, ils donnaient des fessées, etc. Et aujourd'hui, on est la génération qui a trouvé la vérité parentale. Il faut vraiment être humble en fait, parce que dès que t'as plus des enfants de 3 ans, tu te rends compte qu'il y a encore une génération qui va remettre en question comment toi t'as élevé les tiens qui ont déjà 8, 10 ou 12 ans. Donc tu deviens très vite une génération d'avant, donc ça amène une grande humilité. et de se dire vraiment je fais à la hauteur de mes moyens par rapport à ce que je crois être le mieux aujourd'hui.
Est-ce que je sais aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Mais en tout cas, je m'autorise à faire de mon mieux et à ce que parfois ça ne fonctionne pas exactement comme je l'avais prévu, mais en tout cas, je fais ce que je peux dans le contexte dans lequel je suis.
Et vraiment, je ne parle pas de complaisance. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas dire « Ah bah j'ai crié, puis c'est tout, hein. Bah, comme ça, ils vont voir que… » Tu vois, ce n'est pas ça. Faire de son mieux, c'est dire « J'ai crié, ce n'est pas ce que je veux. Et je suis capable de faire différemment. J'ai peut-être besoin d'aide pour ça. Je vais pouvoir le dire à mes enfants. » J'ai crié, je veux pas vous crier dessus en fait. Donc je vais chercher des solutions. Tu vois, c'est ça faire de son mieux, c'est pas de se dire, c'est comme ça que je suis. Hein. Ils ont qu'à me prendre comme je suis. Hein, sinon, il fallait choisir. Tu vois, c'est vraiment faire de son mieux. C'est comme la bienveillance quoi. Quand tu vas au bout de cette logique là, c'est faire vraiment de son mieux avec respect pour soi-même autant que pour les autres. Et voilà, vraiment de ce cheminement. Avec cette prise de recul sur qu'est-ce que je suis capable de faire bien.
Super. Donc les quatre accords Toltec.
Ouais, c'est comme ça. Voilà. Demain, peut-être que j'en aurais dit un autre. Aujourd'hui,
écoute,
c'est celui qui vient.
On en reparle demain. Écoute, avec plaisir. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup pour
merci
tous ces
à
partages.
Toi.
Si des personnes ont envie de te contacter, te poser des questions, en tout cas revenir vers toi, comment on peut te contacter ?
Donc tout est disponible sur mon site qui est paizadi.fr.
Ok. Je mettrai le lien de toute façon dans les notes.
Sur mon site, il y a un onglet de contact. Et puis, j'ai un mail aussi qu'on pourra recommuniquer par écrit, mais c'est Céline, tout simplement, @spaisy.fr.
D'accord, ok.
On a souvent un premier contact sous forme d'une séance offerte qui permet de voir
si on a du boulot à faire ensemble
et si ça peut marcher, jusqu'où ça peut nous amener.
Ok, ça marche. Mais écoute, merci beaucoup.
Merci encore
et
à toi.
Et puis, écoute, je te souhaite une excellente continuation dans le développement de cette activité. Et puis, j'espère à bientôt.
À bientôt, merci.
Au revoir.
Rebonjour à tous. Je reviens dans cette deuxième partie d'épisode, comme d'habitude, pour approfondir un outil avec vous. Et j'aimerais aborder le sujet dont nous avons parlé avec Céline en fin d'interview, à savoir les quatre accords Toltec, parce qu'ils peuvent vous être utiles, comme évoqué avec elle, pour vos relations avec vos enfants, mais aussi de manière plus générale dans votre communication et vos relations avec les autres au-delà des enfants. Alors, que sont les quatre accords Toltec ? Eh bien, ce sont quatre règles de vie, quatre règles de conduite qui sont issues d'un livre qui s'appelle lui-même « Les quatre accords Toltec » écrit par Don Miguel Ruiz qui a été publié aux États-Unis en 1997. Don Miguel Ruiz est un auteur spécialisé dans la culture et la mythologie Toltec et les Toltecs sont un peuple qui habitait au Mexique pendant le Moyen-Âge. Ces quatre accords, ces quatre commandements, on va dire, sont à la base de la sagesse de ce peuple Toltec et qui permettent d'appréhender le monde sereinement et de manière plus saine, c'est-à-dire qu'une mise en application quotidienne de ces accords permet d'atteindre une forme de liberté individuelle et émotionnelle. Ils sont relativement simples à comprendre, évidents et universels et très puissants, mais peuvent parfois aussi être assez difficiles à mettre en œuvre. Je vous propose donc de les rebalayer. Le premier accord, que ta parole soit impeccable. Alors, impeccable signifie intègre dans le sens de dire ce que l'on pense, de dire ce que l'on a à dire précisément et de façon claire, ou en tout cas de ne pas mentir, de ne pas tromper l'autre et surtout de ne pas faire de sous-entendus. Et cela signifie aussi sans agresser personne ou sans critiquer. En quelque sorte, cela rejoint la notion d'assertivité dont nous entendons beaucoup parler. Une parole intègre concerne évidemment les personnes extérieures avec qui nous communiquons, mais cela nous concerne également nous-mêmes, c'est-à-dire dans le discours et les pensées que nous pouvons alimenter vis-à-vis de nous-mêmes. Donc premier accord, que ta parole soit impeccable. Le deuxième accord, ne réagis pas de façon personnelle. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce que les autres font ou disent fait partie de leur réalité à eux, de leur vie. Leurs paroles leur appartiennent et les concernent personnellement. C'est vrai qu'on a souvent tendance à nous sentir visés, coupables, blessés, responsables, et nous pensons que ce que les autres font ou disent ont à voir avec nous, alors qu'en réalité, les comportements ou les paroles des autres ont plutôt à voir avec eux-mêmes et sont avant tout le reflet d'eux-mêmes et de leur réalité. Il suffit parfois d'une simple phrase ou remarque pour déclencher de la colère ou de l'agacement, qui pourrait pourtant être évitée en partant de ce principe de ne pas en faire une affaire personnelle. Donc le deuxième accord, ne réagis pas de façon personnelle. Le troisième accord, ne fais pas de suppositions. Nous avons effectivement régulièrement tendance à interpréter les choses selon notre propre paire de lunettes, comme évoqué avec Céline dans l'interview, c'est-à-dire selon notre propre réalité, selon nos croyances, selon nos valeurs, etc. D'ailleurs, nous sommes souvent très doués pour nous monter un scénario catastrophe devant telle ou telle situation, ou à tenter de deviner ce que les autres pensent, alors qu'avec un peu de recul, il n'en est rien. Nous avons en réalité peur de poser des questions. Nous préférons rester avec des non-dits, faire des suppositions et utiliser notre imagination pour en faire des déductions plus ou moins correctes, plus ou moins vraies, et ce qui peut pourtant avoir des conséquences désagréables. Donc, troisième accord Toltec, ne fais pas de suppositions. Et enfin, le quatrième accord, fais toujours de ton mieux. Dans celui-ci, il est question de passer à l'action et sans jugement. Faire de votre mieux selon votre humeur, votre énergie et le contexte dans lequel vous êtes. Cela signifie, d'une part, faire les choses concrètement et sans procrastiner, de faire ce que vous êtes capable de faire. Et d'autre part, savoir apprécier le résultat de ce que vous avez fait, c'est-à-dire ne pas être systématiquement dans le jugement, dans le perfectionnisme et dans la remise en question. C'est accepter que vous avez fait de votre mieux, et si le résultat n'est pas exactement celui que vous souhaitiez, dans ce cas, en tirer des apprentissages, des enseignements et rebondir pour la fois suivante. Donc le quatrième accord Toltec, fais toujours de ton mieux. Voilà en synthèse le concept de ces quatre accords Toltec. Pour les mettre en application dans vos vies, l'enjeu va être de réussir à prendre du recul dans les situations que vous allez rencontrer et de réussir à prendre un moment de pause, entre guillemets, et de réflexion pour conscientiser cette démarche et mettre en application ces quatre principes. Testez, recommencez et surtout ne vous jugez pas si parfois, dans certains cas, vous éprouvez de la difficulté à les mettre en application. Tout est une question de pratique, d'habitude et d'apprentissage. Je vous invite à tester, peut-être déjà sur une première journée, et voyez ce qui se passe, voyez ce que ça donne. Au pire, il ne se passera rien, mais ça, j'en doute fort. Voilà pour ce 19e épisode. J'espère qu'il aura été inspirant pour vous. Je vous rappelle bien évidemment que si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en allant directement sur le site www.cbcoach.fr ou via les réseaux sociaux, à savoir la page Facebook CBCoach ou encore le compte Instagram CBCoach51. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.